Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, nous allons retrouver Françoise Gernot pour la seconde émission intitulée « Parler, est-ce déjà agir ?» Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Et avant que vous résumiez cette première émission, puisque j'ai découvert ce terme de performatif, je me demandais si c'est rentré dans les mœurs, disons, dans le langage courant. Le mot performatif.
Oui. Alors, d'abord, rappelons ce qu'est un performatif.
Oui, vous avez raison.
Commencez par là, ce dont je me suis préoccupée dans la première séance. Alors, l'acte de parole que l'on appelle performatif, et c'est un acte de parole au sens pur, consiste à, dans l'énonciation même du propos, transformer une réalité. Mm. Hein? Donc, lorsque je dis, par exemple, je donne et lègue ma montre à mon frère, je donne et je lègue, si je dis je lègue, si je dis je vous parie, si je dis je baptise ce bateau Queen Elizabeth, ou si je dis oui lors de la cérémonie du mariage, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de phrase constative. Mmh. Je ne constate pas que je suis en train de me marier.
Mmh, hein? D'accord. Mmh.
Je ne constate pas que je donne et que je lègue ma montre à mon frère. Mmh. Simplement, en prononçant, en énonçant, car il s'agit vraiment d'une énonciation, je donne et lègue ma montre à mon frère.
C'est à force d'un engagement.
Oui, question de force. Mais je le donne. En disant je donne, je donne. Mmh. En disant je lègue, je lègue. Mmh. Alors, nous allons voir que, bien entendu, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Bon, d'abord, les exemples ainsi donnés sont des exemples de performatifs purs. Mmh. Hein, de performatifs, je dirais, exemplaires.
Réussi. Voilà. Il a légué,
réussi
il
ou
a
non battu. Réussi, ou
oui.
Non réussi.
Eh oui,
ou
il
non
peut
réussi.
Ne pas avoir légué,
alors,
en
la
fait.
Question de la non réussite du performatif, du fait que l'énonciation ne produit pas l'acte attendu ou l'acte, comment dire, qui serait engagé par la parole, ça, c'est une autre question.
Ah oui.
Et
pourquoi?
Pourquoi cela échoue-t-il? Pourquoi y a-t-il échec? Alors, avant cela, je voudrais dire un mot sur la question que vous m'avez posée. J'ai entendu cet été beaucoup l'idée que la parole des hommes politiques était performative. Alors, je pense que c'est une extension du mot performatif, qui vient de l'anglais, bien sûr, hein, tout perform, accomplir. La traduction française dit exécuter, moi je n'aime pas, je préfère accomplir. Bon, que le discours des hommes politiques accomplisse, oui, mais pas au sens où l'entend, au sens restreint, typique. Ou l'entend aussi lui-même. Mmh. Hein. Lorsque le président de la République déclare « je dissous l'Assemblée nationale », puisque l'expérience nous l'avons, il s'agit bien d'un performatif. Mmh. Alors, les conséquences, le fait qu'il s'agisse d'un discours d'autorité ayant des conséquences, ne relève pas, justement, n'est pas une caractéristique essentielle de la parole dite. Mmh. Voilà.
Hein, donc. Mais en fait, ça sont des préoccupations linguistiques, mais que la philosophie s'approprie tout de même.
Oui, alors Austin est bien entendu un philosophe. Alors quand je dis bien entendu, non, ce n'est pas bien entendu du tout, parce qu'il ferraille contre la philosophie. Hein. Austin reproche à la philosophie d'avoir négligé le langage ordinaire, les enjeux philosophiques, vous voyez, il ne prononce pas le mot, hein, du langage ordinaire et de certaines formules qui supposent une relation à la réalité qui n'est pas celle du descriptif, mais du programmatique.
Ah oui. Hein? Mmh.
Donc, lorsque je dis « le chat est sur le tapis », je constate une réalité, c'est vrai ou c'est faux. Lorsque je dis « je donne et lègue ma montre à mon frère », ça n'est ni vrai ni faux. Ça peut être une phrase réussite, pas réussie.
Ou pas réussie.
Ou pas réussie. Ou malheureuse, comme il dit. Hein? Il y aurait une félicité, malheur.
Bon, c'est pour ça que Benveniste, qui est un linguiste, s'est intéressé justement à cette question du performatif.
Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, effectivement, c'est l'analyse très rigoureuse que fait Benveniste. Alors, qui est Benveniste? Eh bien, c'est le linguiste par excellence de la tradition française récente. Ce texte, ou plutôt cette conférence, a été prononcée en 1963. Et justement, dans un débat avec les philosophes anglo-saxons, c'est-à-dire cette philosophie dite analytique, qui a pour thème, justement, l'analyse des laissés-pour-compte du langage, et en particulier du langage ordinaire. Alors, est-ce vraiment, relève-t-il vraiment du langage ordinaire les formules dont je parle, ou les formules que cite précisément
Austin,
c'est très très délicat. Donc, la différence entre la formule performative et l'énonciation constative est parfois délicate. Et il commence par là, Benveniste, à déceler. Par exemple, si je dis « Nous ne sommes nullement certains », je cite Benveniste, « qu'on puisse donner comme probante pour la notion de performatif les locutions citées plus haut. Je vous souhaite la bienvenue. » En disant « Je vous souhaite la bienvenue », je vous la souhaite. Je m'excuse. Je vous conseille de le faire. S'agit-il vraiment de performatif au sens explicite du mot? Et voilà ce que dit Benveniste. Par exemple, quand je présente mes excuses, je présente mes excuses est une reconnaissance publique de tort, un acte qui apaise la querelle. On pourrait découvrir, dans des formules plus banales encore, des résidus d'énoncés performatifs. Bonjour, sous sa forme complète, je vous souhaite le bonjour, est un performatif d'intention magique.
Ouf.
Mais ce n'est, quand je dis un bonjour, c'est un performatif d'intention magique. Alors nous voyons, nous entrons déjà dans une espèce de sociologie du rituel, du cérémonial, qui je crois est vraiment le moment essentiel, la scénographie essentielle de la prise de parole comme parole transformant la réalité. Voilà. Donc, toujours en tant que linguiste, on peut proposer une première définition. En disant que les énoncés performatifs sont des énoncés où un verbe déclaratif jussif à la première personne du présent est construit avec un dictum. Ça, c'est le vocabulaire pur des linguistes. Alors, il s'agit d'un verbe. Tout commence par un verbe. J'ordonne. Il prend comme exemple j'ordonne ou je commande, je décrète que la population soit mobilisée. Donc, verbe déclaratif jussif, c'est-à-dire qu'il a à voir avec la déclaration et, disons, un énoncé de droit. À la première personne du présent, nous l'avions souligné la dernière fois, j'ordonne, je, et j'ordonne le présent actuel, et non pas le présent continu possible dans la langue anglaise. Je reprends, un verbe à la première personne du présent qui est construit avec un dictum. Or, un dictum, c'est-à-dire un complément, une qualification seconde, ce dont Austin ne parle pas. Alors, par exemple, j'ordonne, ça, c'est la part, je dirais, performative, que la population soit mobilisée. C'est en quelque sorte l'arrêt judiciaire.
D'accord.
Ce qu'en termes juridiques, on appelle justement un dictum. C'est la première raison. Voilà. Deuxièmement, alors, il donne des exemples. Par exemple, une autre variété de thèse énoncée donnée dans la construction du verbe avec un complément direct ou un complément prédicatif. Je le proclame élu. Pas tout à fait le dictum dont nous venons de parler. Nous vous déclarons coupable. Je nomme X comme directeur, etc. etc. Bon.
Pourquoi prend-il le temps de donner tous ces exemples? Parce qu'il n'est pas persuadé de la définition de ce performatif?
Si, mais il essaie de donner des exemples, encore une fois, de performatifs purs.
Pur,
alors,
d'accord.
Ces exemples relèvent-ils, moi c'est ma question, de la langue usuelle? Moi, je n'en suis pas sûre, parce qu'il y a toujours cet élément qui est souligné par Benveniste, juridique. Il y a cet élément juridique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, précisément de l'ordre.
Enfin,
Alors, voilà, il continue encore. La proposition Pierre est arrivée, la maison est fermée, n'énonce pas un dictum, mais un fait.
D'accord. Hein?
Voilà, la différence entre le dictum, je convoque l'Assemblée nationale, et un factum. Pierre est venu hier. Alors, vous voyez bien aussi la distinction entre ce qui peut être le caractère très solennel d'un performatif et le caractère très commun des phrases constatives, qui effectivement relèvent de la vie quotidienne. Nous ne faisons que cela. Hein. Sais-tu où est le chat est sur le tapis. Voilà.
Alors, je vous propose qu'on réécoute la chanson que vous avez mise dans la première émission, qui est une chanson d'un crooner italien, mais Je te jure que je t'aime. Là aussi, une...
Oui. Je te jure. Alors, je te jure, c'est bien le performatif. Et que je t'aime, c'est le dictum. Mais c'est curieux quand même. Hein.
Il a besoin quand
A-t-on
même
besoin de dire, je te jure.
Alors, on la réécoute la seconde fois pour entre ce performatif, ce constatif.
Ah, les crooners italiens.
Fuori sta piovendo, io dentro sto tremando perché te ne vai. Tra poco partirai. Un treno sconosciuto presto prenderai. Non c'è più molto tempo. Ti giuro che ti amo, adesso stai piangendo, ma perché lo fai? Tanto ritornerai a tutto quel che è stato, tu ripenserai.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons la seconde partie de cette seconde émission « Parler, est-ce déjà agir ?» avec Françoise Gernot. Merci Françoise. Et on continue cette analyse qui est parfois un peu délicate. Hein.
Oui, mais bien sûr, c'est une certaine subtilité, mais encore une fois, il ne faut pas oublier la dose d'humour qu'il peut y avoir dans...
Ouais.
La dose d'humour qu'il peut y avoir dans tout ce récit, en fin de compte, parce qu'il s'agit bien d'un récit.
Chez Benveniste, il n'y a pas d'humour. Hein. C'est vraiment le linguiste méthodique qui...
Non, oui, c'est pour ça que moi je l'aime tant. Enfin, j'aime beaucoup. C'est vraiment
alors vous laisse continuer sur Benveniste.
C'est vraiment une admiration éperdue pour Benveniste. Hein? Voilà. Alors, nous avions souligné la question de la première personne. Hein, mais il peut y avoir des performatifs comme ceci. Hein. Monsieur X est nommé ministre plénipotentiaire, par exemple, dans le journal officiel. Hein. La chaire de botanique est déclarée vacante. Alors, on peut transformer, nous dit Benveniste, on peut transformer ces formules en verbes déclaratifs. Hein. Le prononcé, voilà, ou encore le prononcé du dictum est rapporté impersonnellement à la troisième personne. Il est décidé que le président de la République décrète que. Donc on peut transformer,
oui, d'accord.
On peut transformer ces propos qui sont souvent validés d'ailleurs dans les textes écrits par des formules, on peut les transformer en une formule de la première personne qui est typique du performatif. Alors autre chose, et qui est beaucoup plus intéressant pour moi, voilà un domaine où sont produits des énoncés performatifs, celui des actes d'autorité. Alors en effet, le performatif, ce n'est pas un hasard si j'ai cité évidemment les actes de parole, speech act du président de la République. Il s'agit effectivement de performatif, c'est-à-dire de d'énonciation qui transforme d'une certaine manière la réalité. Il s'agit de performatif, donc énoncé par l'autorité, une autorité légitime. Et je vais revenir sur la légitimité de l'autorité. Et c'est en cela que la parole politique, malgré l'extension qu'on peut donner au mot performatif, la parole politique est de nature performative. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, il s'agit d'actes d'autorité. Avec nuance, et je lis. Voilà un domaine où sont produits des énoncés performatifs, celui des actes d'autorité. Nous en ouvrons un autre, où l'énoncé n'émane pas d'un pouvoir reconnu, mais pose un engagement personnel pour celui qui l'énonce. À côté des actes d'autorité, publiant des décisions, moi je dis des actes politiques, qui ont force de loi, nous sommes dans le juridico-politique, il y a aussi des énoncés d'engagement relatifs à la personne du locuteur. Je jure, je te promets, je fais vœu, je m'engage à, aussi bien que j'abjure, je répudie, je renonce, j'abandonne. Oui, mais je crois que dans... C'est là où j'aurais une nuance à apporter par rapport à la distinction que fait Benveniste. Je jure, je promets, je fais vœu, c'est tout de même, ce ne sont pas des phrases du langage courant. En ce sens où elles ne sont pas anodines. Il ne s'agit pas d'une description anodine, le chat sur le canapé. Non, il s'agit véritablement d'engagement de la personne que je suis. Et d'une certaine manière, c'est au nom de ma conscience, au nom de l'autorité de ma conscience, que je prononce ces paroles. Donc, la subjectivité ici se pose bien comme une autorité.
Mais pourquoi a-t-on besoin d'affirmer justement cette... de l'affirmer ? Pourquoi a-t-on besoin de jurer ?
Parce que la vie sociale suppose, alors là c'est anthropologique, la vie sociale suppose l'engagement. Il ne peut pas y avoir de vie sociale s'il n'y a pas d'engagement, ou comme disait Nietzsche, s'il n'y a pas de dette, ou de reconnaissance de dette. Et d'acquittement de dette. Alors je reviens à une autre question qui est encore plus délicate, qui est la question de la dette. Alors maintenant, si moi je me mets à dire sur la place du marché, ce soir je dissous l'Assemblée nationale,
il n'y aura aucun effet.
Alors non seulement il n'y aura pas d'effet, mais c'est une déclaration absurde.
C'est un non-sens.
C'est un non-sens, c'est une déclaration complètement absurde, parce que je n'ai pas l'autorité institutionnelle pour. Donc encore une fois, il ne peut y avoir de performatif qu'au titre véritablement d'une légitimité qui m'est accordée institutionnellement ou que je m'accorde.
Oui, donc, l'autorité de ma conscience en fait.
Oui, alors on va revenir à cette question de conscience qui est extrêmement délicate et que Jacques Derrida, par exemple, a beaucoup, beaucoup discuté à propos de ces formes performatives. Mais je ne vais pas introduire les analyses de Derrida qui sont encore plus compliquées que ça.
Possible.
Voilà.
Je plaisante.
La philosophie donc, anglaise a refusé, par exemple, des titres de professeur honorifique à Derrida, parce que Derrida ne disait rien de sensé. Je ferme la parenthèse.
Mais c'est incroyable, cette haine entre la philosophie anglo-saxonne.
Il y a une très grande polémique. Il y a une très grande polémique que je trouve en grande partie injuste. Enfin, bon,
et encore maintenant,
oui. Oui, parce qu'on retombe quand même, parce que si on lit vraiment de manière très soucieuse, et non pas comme le fait Benveniste, en linguiste précis, les écrits d'Austin, à la limite, il s'agit bien d'études philosophiques du langage.
Oui.
Il y a bien de la philosophie là-dedans, quel que soit l'humour et quelle que soit la rébellion contre la philosophie française, c'est-à-dire la philosophie allemande.
Mais est-ce qu'Austin est reconnu en France ?
Mais bien sûr, tout le monde a lu Austin. Il y a des philosophes français qui sont des austiniens. Oui, absolument. Alors, Voilà, la suite de ce que dit Benveniste, et ça recoupe ce que je viens de dire. C'est évidemment plus élégamment prononcé, enfin énoncé plutôt. Ne pouvant être acte, souligné, faute de l'autorité requise, un tel propos, par exemple, si je crie, alors je reviens à mon exemple, je vais un petit peu en arrière, hein, hors des circonstances qui le rendent performatif, un tel énoncé, on va voir lequel, n'est plus rien. N'importe qui peut crier sur la place publique, je décrète la mobilisation générale. Ne pouvant être acte, souligné, faute de l'autorité requise, un tel propos n'est plus que parole. Parole, parole, pour prendre une autre.
Oui, on aurait pu y mettre Dalida.
Oui, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Dalida. Hein.
Moi aussi, ça avait été ma première idée.
Un tel propos n'est plus que parole, parole, il se réduit à une clameur inane, c'est-à-dire dénuée de sens, un enfantillage ou démence. Clameur inane, enfantillage ou démence. Alors évidemment, la catégorie de la folie est tout à fait intéressante parce que le fou est quelqu'un qui peut justement prononcer des performatifs « je suis Napoléon », je suis Napoléon Bonaparte.
Ouais. Voilà.
Hein, c'est l'exemple classique. Alors, en dernière instance, toujours Benveniste, l'énoncé performatif étant un acte, il a cette propriété d'être unique. Il crée l'événement. Et si je transforme, si je reproduis l'énoncé performatif, si je le transforme, il devient un énoncé constatif. Par exemple, si je cite, je cite à ce moment-là, ça devient un constatif. Alors, il y a une problématique qui est assez compliquée, c'est que Austin marque ceci, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une représentation théâtrale, c'est-à-dire une représentation, où l'acteur dit, par exemple, « je te jure que je t'aime », par exemple dans l'opéra italien, ce n'est pas ça performatif, parce qu'il s'agit de ce que serait l'imitation littéraire ou scénographique d'un performatif. Et moi, je trouve ça, c'est très délicat. Je trouve très très délicat le fait qu'il ne peut pas y avoir de mimétisme, de mimétique, d'imitation, par exemple par l'acte par exemple théâtral d'un acte de langage. Ouf, moi ça me paraît quand même assez problématique parce que dès lors que l'on sait que la phrase dans le contexte théâtral, eh bien c'est là, dans le contexte théâtral c'est bien par rapport au déroulement de la pièce, aux séquences de la pièce, c'est bien performatif. Donc, je conteste que le performatif ne puisse pas être imité et précisément apparaître dans une représentation, par exemple théâtrale, comme un performatif. Parce que les auditeurs ou les spectateurs font bien la différence entre la scène et le hors-scène.
Bien sûr.
Alors, ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est sur la relation du performatif avec le cérémonial. Dans les cas que présente Austin au début, par exemple, j'y reviens, Benveniste les cite. Je reviens au début, à Austin, ou plutôt à la citation que Benveniste fait d'Austin. L'énoncé performatif a sa fonction à lui, il sert à effectuer une action. Formuler un tel énoncé, c'est effectuer l'action. Peut-être qu'on ne pourrait guère accomplir, au moins avec une telle précision, d'aucune autre façon. Et l'aspect singulier, quand même, du performatif qui est souligné. Par Austin, ici, cité par Benveniste. Je baptise ce vaisseau liberté, il s'agit effectivement d'une cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a toute une scénographie qui permet au performatif de pouvoir être réalisé.
Ça refait penser à Thucydide et le cérémonial de l'éloge funèbre.
Pourquoi je conteste la notion de langage ordinaire, c'est parce que pour moi, ces paroles ne sont pas si ordinaires que ça. Elles supposent toujours un contexte d'autorité, mais un contexte juridique, donc un contexte institutionnel. D'une certaine manière, Austin le dit, il faut qu'il y ait certaines données institutionnelles. Il parle de convenance, enfin, pour que le performatif ait une valeur. Mais bon.
Donc, merci d'avoir analysé avec nous cette notion difficile, hein, performatif, constatif, institutionnel. Et je vais vous demander de conclure ces deux émissions entre Austin et Benveniste.
Oui, alors justement, comme si, tout se passe comme si Benveniste, en tant que linguiste, essayait de découvrir des dévoilés. Ce que serait un performatif pur. Mmh. Et d'une certaine manière, il y a des zones frontalières. Par exemple, Austin admet que certaines formulations est une valeur performative. Et au pire pour Benveniste, Austin va jusqu'à dire, par exemple, si je vois chien méchant au portail de la maison d'un ami, enfin, ou d'un ennemi plutôt.
Ennemi. Il ne faut pas entrer.
Oui. Pour Austin, c'est déjà peut-être un performatif. Et Benveniste, non, ce n'est pas un performatif, c'est un signal. Hein? Mm-hmm. C'est un signal. Comme il y a des signaux, dit-il, dans le code de la route.
Oui. Hein? Mm-hmm.
Quand je vois la représentation du interdit.
Sens interdit. Hein?
Oui, pas, oui sens mm-hmm. interdit. C'est pas un performatif qui m'est signifié, c'est un signal qui m'est adressé auquel je dois obéir. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose.
Hein. Que ces philosophes et ces linguistes vont dans le détail.
Oui, 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 mais si vous voulez, il faut préciser les choses, sinon tout est confondu avec tout. Alors justement, le problème, c'est que ce performatif exemplaire.
Il est bien clair
que pour, ou plutôt il est bien obscur pour Austin lui-même. Parce que dans la deuxième partie de ses conférences, il conteste justement la pureté du performatif et il propose une autre formule en disant il y a en effet, d'une part, des propos qui sont de type performatif et il donne des listes de verbes. Et là, je trouve que c'est très. Moi, là, je ne le suis pas du tout. Et puis, il ajoute aussi que. Dans la vie quotidienne, il est tout de même très très délicat de faire la part entre le performatif et le constatif, d'autant que le performatif s'adresse bien à quelqu'un. Donc il y a toute la question immense de la réception du performatif.
Alors écoutez, on va laisser nos auditeurs...
C'est redoutable ça, c'est redoutable, oui.
On va laisser nos auditeurs avoir la réception de ce que vous avez
expliqué. Alors, je voulais simplement dire encore une chose, c'est que ce qui caractérise pour moi le discours actuel des politiques, c'est qu'ils font ce qu'ils disent et qu'ils disent ce qu'ils font. Et ça, c'est terrible. C'est pire que l'autorité, ça c'est la tyrannie.
Merci Françoise.
Je vous remercie, nous sommes bien dans la politique.